Bonjour Tiffaine, et aujourd'hui nous vous proposons d'écouter une émission consacrée à la couleur noire. Attention, cette émission a été enregistrée avant l'annonce du confinement et donc avant la fermeture des musées.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième moment de notre série consacrée à la couleur noire. Série débutée lundi avec Michel Pastoureau, avec qui nous avons remonté l'histoire des significations du noir, de la genèse jusqu'à nos jours. Cette couleur qui est devenue progressivement de plus en plus chic, notamment parce que les bourgeois du XIVe siècle, qui n'avaient pas le droit de porter du rouge, ont commandé de très beaux noirs aux teinturiers. Cette émission est bien sûr à retrouver en téléchargement. Et puis mardi, c'est par la littérature que nous sommes allés chercher les significations de cette couleur, avec les arcs-en-ciel du noir de Victor Hugo, tels que les envisage Annie Lebrun. Et puis demain, c'est Marie Lavandier qui viendra nous parler de l'exposition Soleil Noir, laquelle se tient en ce moment au Louvre-Lens et dont elle est la commissaire. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des liens entre le noir et la lumière, à travers la peinture de Marc Rothko et de Pierre Soulages, nous sommes en compagnie d'Anne-Camille Charlia, docteur en philosophie à la Sorbonne avec une thèse sur la couleur et la lumière. Elle vient également de publier des entretiens avec Pierre Soulages sous le titre « L'intériorité dans la peinture », c'est aux éditions Hermann. Pierre Soulages pour qui la lumière est une grande affaire.
J'allume la lumière dans une chambre noire. Certes, la chambre illuminée n'est plus la chambre noire, que j'ai perdue pour toujours. Et pourtant, ne s'agit-il pas de la même chambre ? La chambre noire n'est-elle pas le seul contenu de la chambre illuminée ? Ce que je ne peux plus avoir, ce qui à la fois recule à l'infini et me pousse en avant, n'est qu'une représentation du langage. Le noir que présuppose la lumière. Mais si je renonce à saisir ce présupposé, si je tourne mon attention vers la lumière même, si je la reçois, alors le don de la lumière est la même chambre, le noir non hypothétique. Ce qui est voilé, ce qui est enfoui en soi, voilà l'unique contenu de la révélation. La lumière n'est que l'avènement du noir à lui-même.
Bonjour Anne-Camille Charlia.
Bonjour Mathieu, merci pour votre invitation.
Merci d'être là. Alors la lumière, c'était l'objet de votre thèse de philosophie, soutenue en 2018. C'est un peu en philosophe aussi que Pierre Soulages appréhende l'idée de la lumière dans son art. On vient de l'entendre ici, lisant un de ses propres textes.
Oui, en effet. Alors ce qui est tout à fait unique dans la peinture de Pierre Soulages, c'est qu'il appréhende la lumière à travers le noir. Le noir est son instrument et la lumière est son matériau. Ce qui est la lumière comme matériau pictural, c'est tout à fait paradoxal et en même temps riche de possibilités.
Puis il y a cette idée que une chambre dans laquelle on éteint la lumière, eh ben on la perd pour toujours, c'est cette chambre éclairée. Et quand on allume la lumière dans une pièce, eh ben on perd pour toujours la chambre noire.
Oui, tout à fait. Il y a cette ça, c'est très intéressant parce que le noir, souvent, on le voit comme quelque chose, voilà, justement, les ténèbres. Et dans ce fragment que lit Soulages, il appréhende le noir, au contraire, comme un noir fécondant qui, tout d'un coup, fait voir ce qui... Enfin, un noir matriciel qui fait naître la visibilité.
Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il est un peu philosophe aussi, Pierre Soulages ?
Oui, après, je crois qu'il garde toujours un langage assez simple. Il laisse une grande liberté d'interprétation de sa peinture, de la lumière. Le spectateur est toujours très très libre. Il y a une éthique de liberté dans sa peinture par rapport à d'autres peintres. On pense notamment aux expressionnistes abstraits qui étaient beaucoup plus centrés sur l'expression d'état d'âme individuel. Tandis que Pierre Soulages ne donne aucun sens a priori à sa peinture. Donc oui, il y a grand espace de liberté qui est proprement philosophique, je crois. Oui.
Il aime dire que la peinture, c'est le jeu des opacités et des transparences.
Oui, alors ça, c'est dans son traitement aussi vraiment du noir, de la matière picturale qui est très texturée. Il joue justement des stries, des aspérités de la peinture. Donc tout ce traitement, cette approche vraiment de la texture de la peinture est extrêmement important dans son, dans sa démarche.
Alors à partir des années 75-80, Soulages va passer du noir, sa couleur dominante, à l'outre-noir. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que l'outre-noir, Anne-Camille Charlia?
Il y a en effet avant 79, entre 79, une rupture.
C'est vraiment, on peut le dater à 79
oui. Voilà, la naissance de l'outre-noir, c'est 1979. Avant, il utilise hein, bien sûr le noir, mais plutôt en, comme une couleur de contraste, puisqu'il y a du bleu, du rouge dans ses peintures. Et à partir de 79, il recouvre entièrement ses toiles d'un unique pigment, le noir, qui n'est pas traité en revanche de manière monochrome. Pierre Encrevé caractérisait ce noir d'un pigment monopigmentaire, mais pas monochrome.
Quelle est la différence?
Ben, monochrome, ce serait, enfin, monopigmentaire à variation chromatique, c'est-à-dire que monopigmentaire au sens où il n'y a qu'un seul pigment, mais qui est révélateur de couleurs qui sont les effets de la lumière, en interaction comme ça avec ce noir qui est travaillé, comme on le disait avant, tout en texture. Il y a des opacités, des transparences, la peinture est mate ou bien parfois brillante, et tout ça crée des jeux de lumière et de couleurs.
En fonction de où le regardeur se trouve, le regardeur est très important dans la peinture de Pierre Soulages.
En effet, alors il y a le déplacement du spectateur fait partie de l'œuvre, puisque la lumière est vraiment la matière de l'œuvre, et donc en fonction du déplacement du spectateur et en même temps de l'interaction de la lumière, puisque la lumière change d'un instant à l'autre, c'est jamais la même toile que le spectateur contemple. Et c'est oui. Une dynamique voilà, qui est propre à ses œuvres.
Est-ce qu'il vous a raconté comment ça s'est passé en 1979, cette prise de conscience qu'il pouvait aller plus loin dans son travail sur cette couleur noire avec l'invention de l'outre noir, Anne-Camille Charlia?
Oui, alors il raconte, bon, c'est une anecdote qu'il a souvent racontée, c'est un accident en fait. Il était en train de peindre et puis tout d'un coup il s'est retrouvé devant cette toile qui était entièrement noire. Et donc ça c'était complètement inattendu, et il a trouvé ce langage à partir d'un accident, de quelque chose d'une recherche. C'est pour ça qu'il dit souvent c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche.
Je l'ai employé comme ça dans mes débuts, comme puissance de contraste. C'est la couleur qui contraste le plus fortement avec les couleurs claires. Et c'est elle qui fait chanter les couleurs claires qu'on peut lui juxtaposer. Au fond, en simplifiant beaucoup, je pourrais dire que j'ai utilisé le noir comme ça depuis 1947 jusqu'en 1979.
Pierre Soulages.
Et puis, en 1979, il y a eu un changement radical. C'est-à-dire que mes peintures sont devenues totalement recouvertes de noir. Mais c'est à ce moment-là, justement, que le noir n'était plus noir. D'ailleurs, un de mes amis m'a dit « Ça y est, maintenant, il n'y a plus de noir dans tes peintures. » Effectivement, il avait su voir que ce n'était plus le noir qui me servait, mais qui était mon outil. Mais mon outil véritable, c'était la lumière réfléchie par le noir. transformé par le noir. J'ai même dit transmuté.
J'avais envie de commencer à parler aussi un peu avec vous de la question de la lumière qui est aussi une sculpture. Est-ce que ça vous parle dans le cadre de Pierre Soulages ? Est-ce que vous diriez que c'est un peu une sculpture aussi, la lumière pour lui ? Il l'utilise en tous les cas de cette façon-là ? Question difficile, hein, j'en ai conscience.
Oui, moi, sculpture, c'est vrai que ses œuvres peuvent être, comme elles sont travaillées comme ça, très en matière, la texture. De la peinture, notamment des outres noires à partir de 79, est traité de manière très très variée. Il y a comme ça, grâce à des outils d'ailleurs qu'il construit lui-même.
Pierre comme Soulages, par exemple
Des racles, ce sont des grandes racles qui sont faites avec des semelles de souliers, avec du caoutchouc. C'est des instruments, lui, il voulait s'écarter justement des instruments traditionnels des peintres, des petits pinceaux qui donnaient en fait un effet attendu. Et donc, créer ces grandes, c'est parfois des instruments d'un mètre. Et c'est ce qui, d'ailleurs, fait que les peintures de Soulages et leurs textures sont travaillées de manière extrêmement maîtrisée. Une grande maîtrise du geste chez Soulages.
Vous l'avez vu travailler ?
Non, jamais. Jamais.
Il y a c'est interdit, ça, de rentrer dans l'atelier du peintre ?
Oui, bon, alors il a déjà été filmé en train de travailler. Mais c'est la seule fois qu'on a pu le voir travailler. Sinon, il travaille seul dans son atelier.
Vous ne lui avez pas demandé, en tous les cas ?
Non, je n'y ai pas demandé, jamais.
Alors, il est comment cet atelier ? Racontez-nous, parce qu'évidemment, on imagine que quand on travaille à ce point-là, sur la question de la lumière, l'atelier doit être évidemment inondé de lumière, non ?
Alors non, l'atelier n'est pas inondé de lumière, justement. Il y a une grande baie vitrée, mais qui donne au nord.
Donc, comme les peintres, traditionnellement, ont des ateliers qui sont orientés au nord ?
Absolument. Donc la lumière ne rentre pas de manière brutale dans l'atelier. C'est une lumière très délicate, et du sud aussi. Et d'ailleurs, toute la face sud, qui donne sur la mer, est obstruée par un mur.
Mmh. Alors vous êtes philosophe quand même. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à noter. Est-ce que vous avez l'impression que Soulages, il réfléchit un petit peu, peut-être pas en philosophe, mais au moins en théoricien, de ce que c'est que la lumière ? Ou est-ce que c'est simplement un praticien de la lumière et des reflets et de ce que la lumière fait sur ces toiles qui sont aussi des toiles de matière.
Je crois que dans la démarche de Soulages, qui est très intéressant, c'est que le noir n'a de vérité picturale qu'à faire naître la lumière, même avant 79. Et si les peintres ont souvent représenté la lumière, il y a chez Soulages une approche tout à fait différente qui est de révéler la lumière à travers une couleur, un seul pigment, à valeur chromatique.
Mais est-ce que vous lui avez parlé, par exemple, de vos recherches ? Est-ce que vous avez échangé avec lui sur... parce que vous convoquez des philosophes, Heidegger, par exemple. Est-ce que vous avez échangé avec lui à ce sujet-là ? Ou est-ce que, pour lui, c'est un petit peu trop loin, quand même ? C'est un peu au-delà de sa pratique, au-delà de ce à quoi il réfléchit chaque jour, Anne-Camille Charlia.
Alors, on a bien beaucoup discuté avec Pierre Soulages lors de nos entretiens. Et en effet, bon, lui, il laisse une très très grande liberté au spectateur. C'est-à-dire qu'il n'impose aucun sens. A priori, ces tableaux n'ont pas de titre. D'ailleurs, enfin, ils ont des titres, puisque c'est peinture, la dimension, la date d'achèvement de la toile, mais qui ne se réfère à rien de particulier. Rien a priori. Et c'est ce qu'il distingue d'ailleurs de ses contemporains, les expressionnistes abstraits auprès desquels il a d'ailleurs été exposé, c'est que lui, il n'y a pas d'état d'âme dans sa peinture. Pas de message personnel, il n'y a pas l'expression d'une individualité.
C'est pas une peinture réflexive pour vous ?
Si, absolument. Mais justement, elle s'adresse à la liberté et à la libre interprétation du spectateur.
Et le noir dans tout ça ? Est-ce qu'il aurait pu faire la même chose avec du rouge, avec du bleu ? Comme Klein, par exemple.
Alors, c'est vrai que le noir lui-même dit « Le noir est une couleur violente qui incite à l'intériorisation. C'est la couleur de plus riche de possible, une couleur intense qui nous rapporte à nos origines. »
perche traditionnelle, et même préhistorique, c'est sur la surface. Ou bien, quand on a inventé l'illusion de la profondeur et la perspective.
Pierre Soulages.
Déjà, j'étais très critique avec l'illusion. Je trouvais l'illusion, c'est pas l'art. L'illusion, c'est justement le contraire. L'art, c'est la présence. Et l'illusion, c'est ce qui vous éloigne de la présence. Quand vous êtes devant une œuvre et que cette œuvre-là vous fait penser à autre chose que ce qu'elle est, mais c'est une perte. Voilà ce que je pensais et ce que je continue à penser. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand je travaille avec du noir? Qu'est-ce qu'on voit? C'est de la lumière qui vient de la surface vers vous qui la regardez. Les stries, dans certains cas, dynamisent la forme. Dans d'autres cas, les surfaces lisses l'apaisent. C'est autre chose. Et l'organisation de ces choses-là, c'est ce qui constitue la peinture, mais quand on regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est de la lumière qui vient de la toile vers celui qui regarde. Par conséquent, l'espace de la toile n'est plus ni sur la surface, comme il est traditionnellement, ni derrière la surface, comme il l'est avec l'illusion de la profondeur. L'espace est devant. La lumière qui va de la toile vers celui qui la regarde. Et celui qui la regarde est dans l'espace de la toile. C'est un rapport à l'espace nouveau, différent. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est propre à ce genre de travail. Et c'est en tout cas une voie possible dans laquelle je me suis engagé et dans laquelle je me trouve vivant.
Compagnie des œuvres, oh, oui. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors, vous avez parlé de Nietzsche avec Pierre Soulages. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce sujet, Anne-Camille Charlière?
En fait, lorsqu'on parlait avec Pierre Soulages, un jour, il me racontait la création des vitraux de Sainte-Foy de Conques. Et il m'a raconté les différentes phases de recherche pour la réalisation de ce verre translucide, qui n'est pas transparent, mais qui n'est pas opaque pour autant. Et là, il m'a dit, le verre n'est plus transmetteur de lumière, mais émetteur d'une clarté. Et ça m'avait fait beaucoup réfléchir, parce que la distinction entre lumière et clarté n'est pas évidente à première vue. Et donc j'ai fait plusieurs recherches, et c'est dans Ainsi par les Zarathoustra de Nietzsche que j'avais trouvé un élément peut-être de réponse. Parce que Nietzsche écrit « Le monde est profond, et plus profond que le jour ne l'a jamais pensé. » Et d'après Nietzsche, bien que la lumière éclaire et rende visible toute chose, elle ne se découvre jamais elle-même, c'est-à-dire qu'elle découvre jamais son essence. La lumière est la source de toute visibilité, et pourtant son essence à elle est invisible. Et c'est ce que le philosophe nomme la clarté, la source invisible de tout visible. Donc j'en avais parlé avec Pierre Soulages, je lui avais demandé si cette distinction entre lumière et clarté, est-ce que c'était l'essence de la lumière qu'il recherchait, même dans son travail du noir, d'un noir appréhendé comme une couleur matricielle, fécondante, une couleur des origines, d'où surgit la lumière, et non pas une couleur de tragique, ou de deuil, ou de mélancolie. Je lui avais demandé si pour lui, cette distinction entre lumière et clarté avait un sens.
Et qu'est-ce qu'il vous avait répondu?
Pour lui, ce qui était plus intéressant, c'était le fait que la lumière, prenne racine en nous-mêmes, en notre intériorité. Il trouvait ça très intéressant, mais il ne veut pas, je crois, embarrasser même sa peinture d'une pensée trop complexe ou bien d'un sens métaphysique. C'est vraiment le spectateur.
Mais ça veut dire quoi? C'est mystique?
Alors, sur l'intériorité, c'est... Alors, lui, il n'a pas une approche mystique de la peinture, tandis que chez Roscoe, on a comme ça une pensée beaucoup plus spirituelle, même une quête métaphysique à travers le traitement de la lumière. Chez Soulages...
Alors, Roscoe a fait une chapelle très connue à Houston, ce qui montre bien qu'il y a un lien quand même avec la spiritualité dans la peinture de Roscoe. Mais on pourra y revenir, je vous laisse
poursuivre
sur Soulages.
C'est d'ailleurs très intéressant que ces deux artistes qui ont travaillé le noir, enfin, au moins, chez Roscoe, c'est une palette très, très sombre, est investi tous deux des lieux de culte religieux. Alors, chez Roscoe, c'est une chapelle œcuménique, et chez Soulages, c'est Sainte-Foy-de-Con, qui est une abbaye, là où il a eu, d'ailleurs, sa vocation de peintre.
Qu'est-ce que vous y voyez ?
Il était adolescent.
Qu'est-ce que vous y voyez dans ce rapport avec le lieu religieux ?
Une quête transcendantale, et qui soit en même temps pas forcément liée à un dieu, mais... Chez Pierre Soulages, c'est très clair, c'est lié à l'intériorité. C'est propre à chaque spectateur. Et d'ailleurs, lorsqu'on parlait justement de cette distinction entre clarté et lumière, la clarté qui serait vraiment donc en chaque homme, que chaque homme pourrait faire surgir, une lumière qui ferait surgir de lui-même, il m'avait répondu que c'était ça pour lui, ça, c'était intéressant, et que l'intériorité, c'est ce qui se passe au-dedans de nous.
Alors justement, ce serait bien que vous nous parliez un petit peu de ces vitraux de Conques et que vous nous racontiez l'effet que ça fait d'entrer dans une église où les vitraux sont teintés de noir, parce que c'est ça. Donc c'est la lumière qui passe à travers du noir. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, Anne-Camille Charlia ?
La crainte, en fait, lorsque Pierre Soulages a reçu cette commande des vitraux, la crainte un peu du grand public, c'était qu'il fasse des vitraux noirs. Et c'est absolument pas le cas.
Ils sont comment, alors ?
Les vitraux sont blancs. Et ils sont justement... Pendant 8 ans, il a mené des recherches pour la création d'un verre. D'un verre très texturé, qui puisse laisser passer la lumière, sans pour autant laisser passer le regard du spectateur vers l'extérieur. Donc c'est une... Alors ça, c'est extrêmement intéressant, cette recherche et cette construction du verre, car c'est un verre très texturé qui, à l'intérieur, en fait, lorsque la lumière le traverse, elle se brise. Elle se brise, et c'est pour ça que d'ailleurs Pierre Soulages utilise plus volontiers le terme de transmutation de la lumière, puisqu'il y a quelque chose, un phénomène qui se passe à l'intérieur même du verre et qui fait que la lumière se... occupe l'espace. Lorsqu'on est dans cette abbaye, on est envahi par une sensation d'ineffable, et cette lumière qui est très changeante, qui est très douce en même temps. Et les vitraux, tout comme dans ces outres noirs, ont des valeurs chromatiques différentes. Ils sont parfois bleus, et de manière très très subtile, ils passent au orange. On a des teintes très très variées et émouvantes en fonction de la lumière naturelle extérieure. Qui se brise comme ça dans le verre.
Donc il y a toutes les couleurs dans le noir, alors ?
Il y a toutes les couleurs dans la lumière. Il y a toutes les couleurs dans la lumière, et ça, on le sait depuis longtemps. Et ce qui est étonnant, c'est que le noir était appréhendé comme une non-couleur. Hein. Newton, dans la théorie de Newton, le noir est la grande absente, c'est une non-couleur. Et Pierre Soulages, justement, s'en sert comme d'un instrument. Et là, je crois qu'il faut bien distinguer le terme d'instrument et de matériau, puisque chez Soulages, le noir est un instrument révélateur de couleurs, et c'est la lumière qui est la matière picturale, puisqu'en interagissant avec le noir et les textures du noir, elle crée en effet des couleurs. Mmh. Et lorsqu'on se déplace devant des outres noirs, notamment, ça c'est très sensible au musée Fabre, puisqu'ils ont une grande verrière, comme ça c'est de la lumière naturelle et non pas artificielle, on s'aperçoit qu'il y a tout d'un coup du vert, du bleu. Il y a plusieurs phénomènes, en fait, aussi de physique qui sont à l'œuvre.
Bah, la physique, c'est important, hein, d'ailleurs, quand on parle de lumière, quand on parle de ce noir très profond. C'est de la chimie, d'ailleurs, hein, de fabriquer des pigments de noir. Vous avez un peu travaillé là-dessus, d'ailleurs, aussi, sur le rapport avec, finalement, les scientifiques. Est-ce que les scientifiques ont un œil différent, plus précis, sur la peinture de Soulages ? Comment est-ce qu'ils la voient ?
En effet, il y a deux grands phénomènes, en fait, qui sont physiques, qui sont en action dans les outres noirs, c'est celui de l'absorption et de la réflexion. Donc la lumière est absorbée par la matière picturale d'une façon tout à fait variée aussi. C'est pour ça que ce n'est pas des peintures monochromes, puisqu'en fonction de ses textures, des aspérités de la peinture, des matités et des brillances, la lumière est absorbée d'une façon particulière et elle réfléchit des couleurs aussi tout à fait différentes.
Alors ça, c'est intéressant, l'idée d'absorption ou de réflexion. Parce qu'on se demande où se situe finalement le tableau et l'image dans un tableau de Soulages. Est-ce que l'image, elle est derrière le tableau? C'est-à-dire, est-ce que quand on regarde, on a un effet de perspective? Ou est-ce que l'image, elle est devant le tableau? Parce que la lumière, elle se réfléchit sur la toile et du coup, elle nous englobe. Comment est-ce que on pourrait essayer de répondre à cette question? Comment est-ce que vous pourriez essayer de répondre à cette question, Anne-Camille Charlier?
En effet, souvent, la lumière est représentée dans les tableaux. Tandis que chez Soulages, puisque c'est la matière à l'œuvre qui donne vie au tableau, ce qui est tout à fait, ce qui appartient en propre à la peinture de Soulages, c'est que l'espace de la toile est devant la toile.
Un jour, je peignais. Le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste, sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir, les différences de texture, réfléchissant plus ou moins faiblement la lumière. Du sombre émanait une clarté, une lumière picturale dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. J'aime que cette couleur violente incite à l'intériorisation. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir. D'autant plus intense dans ses effets qu'elle émane de la plus grande absence de lumière. Je me suis engagé dans cette voie. J'y trouve toujours des ouvertures nouvelles. Pierre Soulages.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'est une révolution dans l'histoire de l'art, en fait, de penser comme il pense, d'envisager comme il envisage le rapport du spectateur avec l'espace de la toile.
En effet, puisque dans l'histoire de l'art occidental, le noir même était plutôt appréhendé aussi pour distribuer les ombres et les lumières, et toutes les problématiques, j'en parlais notamment lorsqu'on tournait le documentaire au musée Fabre avec Michel Hilaire.
Donc le fameux documentaire sur le rapport entre la science justement et la peinture de Soulages.
En effet, on était plutôt, c'est vrai que dans l'histoire de l'art occidental, c'était plutôt des problématiques de clair-obscur. La lumière était appréhendée sous cet angle-là. Et les peintres avaient tendance à plutôt évacuer les reflets, tout ce qui était de l'ordre des luisances, de l'accident comme ça, tout ce qui était un peu accidentel dû à la lumière et aux couleurs. Alors que Soulages, il intègre complètement toute cette approche de reflets, de transparence, de luisances et de matité. Et ça appartient véritablement en propre à sa peinture, qui produit des couleurs comme ça tout à fait inattendues, et on est face à une, tout comme à Conque, quelque chose de l'ordre de l'épiphanie.
Mais alors, est-ce que vous pensez, je vous ai déjà posé un peu cette question tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu travailler un autre pigment que le noir? Je pense au blanc parce que, évidemment, on pense un peu au carré blanc sur fond blanc quand on réfléchit à la peinture de Soulages. Est-ce que c'est une erreur de faire cette référence-là? Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans toute autre chose. Vous nous avez expliqué, Anne-Camille Charlier, que c'est vraiment la lumière qui est sculptée par Soulages. Avec Malevitch, c'est un petit peu différent. Mais est-ce qu'on peut quand même faire des liens? Est-ce que vous en avez fait, vous? Est-ce que ça vous a fait réfléchir en tous les cas de penser un petit peu ce carré blanc sur fond blanc et la peinture de Soulages.
Oui, d'autant que Soulages a travaillé avec le noir, avec le blanc, pardon. Il y a des peintures presque entièrement blanches, mais c'est une quête, une recherche qu'il a arrêtée parce qu'il n'en était pas pleinement satisfait.
Qu'est-ce qui est différent ?
On est chez Soulages, Pierre Ancrevet disait cela, dans une peinture monopigmentaire à polyvalence chromatique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une variété de textures qui engendre un nouveau rapport à l'espace et au temps. À l'espace, d'une part, parce que c'est une toile, les outres noires vivent en fonction de l'interaction de la lumière avec la matière et du déplacement du spectateur. Et un rapport au temps aussi, parce qu'il faut... Il faut du temps pour voir un Soulages.
Il faut combien de temps ?
Alors ça, je crois que c'est propre à chacun, mais il faut du temps. Ce n'est pas une peinture facile d'accès. Si chez Roscoe, on est plutôt dans une approche où c'est une espèce de halo de lumière, les color fields de Roscoe, qui sont vraiment... le spectateur se sent immergé dans la toile. Tandis que chez Soulages, il y a une confrontation. D'ailleurs, lui-même dit que ce sont des murs. C'est une peinture à laquelle on peut se confronter et au sein de laquelle on n'est pas absorbé par ce noir, on n'est pas immergé. Ce qui est tout à fait particulier aussi chez Pierre Soulages, est-ce que ce que Pierre Ancrevet, son ami et biographe, disait, c'est que ce n'est pas une peinture monochrome. En ça, elle se distingue radicalement d'œuvres comme les Black Square ou bien d'œuvres de Motherwell, de Reinhardt qui ont travaillé aussi avec le noir.
C'est un peu comme si la lumière, elle se réfléchissait un peu violemment sur les toiles de Soulages, et donc qu'on les reprenait comme ça, avec des éclats en nous, alors que la lumière chez Rothko, elle passe dans la toile, et puis elle est réfléchie, mais comme ça, un petit peu doucement, elle crée une sorte de halo, et donc on rentre dans une espèce de bulle qui est sans doute un peu plus douce. Est-ce que vous pourriez dire ça aussi ?
Oui, en effet. Alors chez Rothko, ce qui est... Il y a tout un travail vraiment là de peintre. Roscoe était très très proche des peintres de la Renaissance, donc il utilisait aussi des techniques propres à cette période, hein, des glacis, des cols de peau qui donnent ces effets presque. C'est une peinture très très évanescente, on dirait qu'elle est soufflée sur la toile. Mm-hmm. Tandis que chez Soulages, c'est une matière qui est très présente.
Donc, il y a la clarté chez Roscoe et vraiment la lumière chez Soulages.
Je crois que la clarté, si on la définit comme vraiment l'essence de la lumière, je pense qu'elle est plutôt du côté de Soulages. Et bon, tout ça est discutable, mais peut-être que Soulages a aussi trouvé une clé autour du noir, de l'utilisation du noir et de la lumière picturale, là où Roscoe s'est arrêté.
Est une histoire qui est allée progressivement vers l'abandon de toute figuration.
Jean-Luc Nancy.
Mais pourquoi ? Pas simplement, je dirais, comme le carré noir, pour signifier, je peux aussi montrer rien, montrer que là. Non, c'est autre chose. C'est autre chose qui s'est fait. D'ailleurs, ça se voit, je crois, si on prend la. Si on dans la chronologie des œuvres de Rothko, il s'est fait par une décomposition des formes et au fond peut-être jamais un renoncement à la figuration, mais une transfiguration des figures en quelque chose qui ne devient plus qu'une apparition, une manifestation. Qui encore une fois appelle à l'intérieur d'elle-même.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Parlons un peu de Marc Rothko quand même. Il faut peut-être redire un petit peu qui il était. Il est né en 1903 à Dvinsk, en Russie. Il a émigré en 1913. Est-ce que vous pouvez nous tracer un tout petit peu comme ça quelques grandes idées sur Rothko, sur la vie de Rothko?
Alors en effet, Rothko a immigré aux États-Unis et il enseigne à New York et commence à peindre dès les années 30. C'est vrai qu'il y a une succession de phases esthétiques très très différentes et très distinctes dans l'œuvre de Rothko. Entre 1930 et 1940, il est plutôt dans des tableaux figuratifs.
Qui n'intéressent pas grand monde d'ailleurs, faut quand même bien le dire.
Qui sont moins connus en effet.
Vous le dites bien mieux.
Entre les 40-43, là, c'est vraiment les sujets mythologiques qui l'intéressent. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a une déconstruction, hein, véritablement, de la figuration, bien qu'on reste dans des formes tout à fait intelligibles. Et à partir de 1944, là, on rentre vraiment dans le langage de Rothko avec ses multiformes qui vont conduire vers l'abstraction la plus totale. Et c'est pourquoi on connaît, en fait, Rothko, sa période classique, qui est celle des color fields, littéralement des champs de lumière qui sont composés entièrement de couleurs, dont les fines couches de peinture révèlent une espèce de lumière très diffuse, comme vous le disiez, un halo, qui ressemble à un halo lumineux, où le spectateur se trouve immergé, quelque chose de très velouté, de très évanescent, qui provoque une espèce de vertige.
De très profond aussi.
Absolument.
Mais on ne sait pas si la profondeur, encore une fois, est devant ou derrière. Elle est peut-être à la fois devant et derrière, non?
À travers l'utilisation de la couleur, justement, Rothko, il y a quelque chose de très phénoménologique hein, dans l'utilisation des couleurs par Rothko. Il sait que les couleurs chaudes semblent avancer. Donc quand on utilise du jaune, de l'orangé ou du rouge, il y a comme ça une dynamique propre au tableau, tandis que les couleurs sombres ont tendance à reculer. Et ça, on le sent aussi par exemple, dans la chapelle, qui se distingue. C'est vrai qu'à partir de... lorsque Rothko reçoit la commande de 14 toiles pour une chapelle œcuménique à Houston, il rompt entièrement avec sa période classique, sa palette classique, pardon, pour des teintes plutôt sombres, qui vont du rouge, du brun, du bordeaux. Enfin, on est très très proche du noir. Cherche à exploiter justement le pouvoir tout à fait réfléchissant et proprement lumineux du noir.
Et d'ailleurs, il va aller de plus en plus vers le sombre. Les derniers tableaux de Rothko sont quand même très gris, sont quand même un petit peu, oui, dans quelque chose qui correspond peut-être à une dépression dans laquelle il se trouve aussi. Enfin, en tout cas, la lumière, est-ce qu'elle ne s'éteint pas un peu au fur et à mesure chez ce peintre, Anne-Camille Charlière?
C'est vrai qu'on entend cela, qu'il choisit une palette plutôt sombre parce que lui-même était atteint de plusieurs pathologies, qu'il avait des problèmes d'alcool. Bon, je ne crois pas qu'il choisisse une palette sombre par rapport à une dépression personnelle.
Ce serait trop facile en fait comme analyse selon vous?
Facile non, mais ça pourrait restreindre, je crois, l'interprétation de ses œuvres et notre rencontre avec ses œuvres. Il y a chez Rothko plusieurs influences importantes, et notamment la philosophie de Nietzsche. Il le cite d'ailleurs beaucoup dans ses écrits, hein, Marc Rothko a beaucoup écrit, et il cite très souvent la naissance de la tragédie. Et il y a là, en effet, une conception du tragique de l'existence. Lui-même dit qu'il ne s'intéresse qu'à l'expression des émotions humaines fondamentales, le tragique, l'extase et la fatalité. Donc en effet, il y a quand même une approche très, très ontologique hein, dans sa peinture. Mais
qui est liée à la religion juive selon vous, ou qui n'a rien à voir avec sa religion?
Marc Rothko se disait athée. Il n'y a pas dans l'empreinte d'un dieu ou bien une forte connotation au judaïsme. En revanche, ce qui est clair, c'est que il y a une approche quand même très, très mystique.
C'est la lumière qui fait penser.
Alors, ce qui est très, oui, il y a notamment l'architecture de la chapelle qui participe à cette méditation, puisqu'elle est de forme octogonale et que l'unique source de lumière naturelle en fait provient du toit qui est percé. Donc en son centre, et d'où s'élance une grande pyramide en verre. Il y a un déflecteur noir occultant qui est placé juste au milieu de cette pyramide en verre et qui permet à la lumière d'être atténuée, d'être très très atténuée et de rencontrer l'étoile d'une manière non pas violente mais avec une certaine grâce.
C'est-à-dire que cette relation contemplative que Rothko exige de la part du spectateur par rapport, enfin, qui crée, il n'exige rien du tout, enfin, qui crée, qui instaure la relation contemplative, il l'instaure par rapport au tableau, c'est la relation qu'il avait lui-même par rapport à ce tableau.
Youssef Ishakpour.
Parce qu'on le voit très souvent dans les photos de son atelier, c'est très différent par rapport à ce qu'on a appelé la peinture gestuelle, qui était une peinture où vraiment, dans les films sur Pollock, on a parlé d'une danse quasiment de chaman autour de la toile, tandis que Rothko, il était toujours assis dans un fauteuil, en train de fumer et regarder son tableau. C'est-à-dire qu'il passait beaucoup de temps dans cette contemplation lui-même et dans ces petites touches qui créent le rythme, c'est-à-dire la mesure de ces tableaux.
Vous dites mesure et j'entends musique parce que c'est vrai qu'il écoutait de la musique.
Il écoutait de la musique, il en jouait, il aurait voulu être musicien. Et d'ailleurs, la métaphore de la musique, c'est une dominante de toute la peinture moderne. Ça, dès le moment où on a découvert, si vous voulez, d'une autre façon que les Vénitiens, on a découvert à partir de la croix l'importance de la couleur, les relations entre les couleurs, l'harmonie des couleurs, etc. Tout cela, la métaphore de la musique est devenue de plus en plus dominante. Et ce qu'il voulait aussi, d'ailleurs, ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait que ces tableaux soient comme le soleil. C'est-à-dire qu'on le sente, qu'on sente la lumière, qu'on sente la présence du tableau, même quand on leur tourne le dos.
Ce qui est intéressant aussi chez Rothko par rapport à ses contemporains qui voulaient faire complètement table rase du passé, c'est que lui se définissait comme un peintre de la Renaissance. Donc outre les techniques vraiment, il reprend des techniques utilisées par Léonard de Vinci, par Fra Angelico, par Giotto, il est subjugué d'ailleurs par ces espaces de fresques qui remplissent un lieu entièrement, parce que lui c'était son rêve et c'est pour ça qu'il considère également la chapelle de Houston comme son chef-d'œuvre. Parce qu'on lui donne un lieu qu'il peut comme ça investir et la peinture devient un espace en soi. Il dit d'ailleurs, ce ne sont plus des tableaux. Oui. J'ai créé un lieu.
Et d'ailleurs, c'est toujours ce qu'il fait parce que dans le Seagram Building, qu'il a dû décorer, il n'était pas très content, je crois, d'avoir à faire ce travail qui était un petit peu, pour lui, alimentaire ou enfin qu'il considérait comme étant un petit peu dégradant. Toujours est-il que c'est vraiment un espace. La peinture de Rothko, elle est toujours dans un espace. D'ailleurs, à la Tate aussi, où il y a une salle Rothko, la salle entière est dévolue à ses peintures, un petit peu comme à l'Orangerie, la salle des Nymphéas ne pourrait pas être exposée autrement que dans une salle entière. Donc c'est vraiment à chaque fois l'espace qui compte dans ces tableaux de Rothko, Anne-Camille Charlia.
Ce qui est vrai, c'est que maintenant, on a l'habitude de voir des expositions comme ça monographiques, dédiées à un seul peintre, tandis qu'avant, c'était plutôt des expositions collectives. D'accord, il y avait plutôt cette pensée aussi du mouvement, donc de plusieurs acteurs d'un même mouvement. Et à l'origine, vous parliez des toiles du Four Seasons pour le Seagram Building.
La Sainte Hôtel, oui.
Qui ont été commandées à Rothko. Il était très heureux lorsqu'il a reçu cette commande au début, parce que ça lui permettait justement d'investir un lieu, un seul lieu, avec ses peintures. Seulement ses peintures. Et finalement, il n'a jamais livré ses toiles. Hein. Elles ont été exposées en 61 au MoMA. Mais il n'a pas voulu les donner. C'était dans un restaurant. Parce qu'il ne voulait pas... Il refusait aussi que sa peinture soit vue comme une peinture ornementale. Mmh. Une peinture de décoration. Et ça, puisqu'il utilisait la couleur, et c'est vrai que la couleur... déjà à l'Antiquité, était digne de suspicion. On la considérait comme un phare, comme un ornement, comme une matière donc très sensuelle, en fait, qui plaît au sens plus qu'à l'esprit. Donc les coloristes étaient quand même... La couleur était appréhendée de manière négative.
C'est toujours un peu le cas d'ailleurs, dans la dichotomie entre le dessin et la couleur. Bon, le dessin c'est sérieux, il faut une bonne technique, alors que la couleur c'est un peu pour les enfants, non? C'est pour l'émotion.
En effet, alors ça c'est une vieille querelle qui a traversé les siècles, puisqu'on dit que la couleur est vraiment secondaire, tandis que le dessin est la substance, hein, serait rapporté. D'ailleurs, il y avait à la fin du XVIIe siècle, une confusion, même orthographique, sur dessin, qu'on écrivait D-E-2-S-I-N, et le dessin, E-I-N, qui était vraiment l'esprit, en fait, le but de l'esprit. Donc ça, c'est une vieille querelle qui a opposé, notamment à la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle, au sein de l'Académie de peinture et de sculpture, les partisans, on a dit, donc du dessin, les poussinistes, hein, qui était mené par Charles Lebrun, qui défendait l'idée du dessin comme substance et de la couleur comme accident, aux rubénistes, des défenseurs vraiment du coloris, pour défendre l'idée que la couleur, finalement, était le propre du peintre. Que c'est pas le dessin, mais c'était bien la couleur qui était la substance même de la peinture.
Matisse l'a bien vu, et Rothko a bien regardé Matisse.
Absolument. Et Rothko, d'ailleurs, était tout à fait... très marqué par la peinture de Matisse, puisque au MoMA, ils ont acquis la chambre rouge, qu'il allait souvent voir, et il parlait de la puissance du rouge, de cette couleur dont vous étiez complètement saturé, et qui suscitait donc des émotions très très fortes. Par rapport à ce statut déficient de la couleur par rapport au dessin, qui a été très très, très longue à apaiser, notamment en philosophie, puisque Kant aussi... vraiment condamne la couleur par rapport au dessin. Il y a le traité des couleurs de Goethe, publié en 1810, qui est tout à fait intéressant sur cette question, puisque lui va réhabiliter la couleur, et en les classant, en les répertoriant, il va établir une sorte de langage, en fait, de la couleur et des résonances psychiques et physiques, c'est-à-dire les effets émotionnels, véritablement, que les couleurs ont, et la manière dont elles affectent l'homme.
Ça va changer complètement la manière dont on envisage la question de dessin-couleur.
Absolument. En fait, ce que Goethe met en exergue ici, et qui va avoir une résonance très très longue, hein, on pense aujourd'hui à la chromothérapie ou à ce genre d'approche, c'est de dire qu'en soi, la couleur a un pouvoir inhérent, et notamment de faire émotionnel sur l'homme.
Quels sont les rapports, Anne-Camille Charliat, entre finalement l'évolution de la recherche scientifique et la manière dont on appréhende toutes ces questions-là?
L'un des tournants, un bouleversement vraiment épistémologique, se situe au XIXe siècle, notamment, qui voit fleurir de nouvelles expérimentations et des découvertes dans le champ de l'optique. Et ça va radicalement... influencer d'une certaine manière la pratique picturale, puisque des scientifiques comme Hermann von Helmholtz, qui reprend la théorie trichromatique de Jung, en fait tous ces chercheurs vont chercher à comprendre, vont vouloir comprendre les mécanismes du système visuel et de l'activité rétinienne, et donc de la perception des couleurs. Donc c'est aussi une époque où il y a l'invention d'instruments tout à fait inédits, comme l'ophtalmoscope, qui permet de regarder in vivo la rétine, et de comprendre donc tous les mécanismes de vision.
Et ça, qu'est-ce que ça change?
Et c'est un bouleversement total, parce qu'en fait, on se rend compte que la subjectivité est très, très importante dans la perception. L'homme n'est pas le spectateur passif d'un monde qui se donne comme ça de façon immuable, qui serait immuable avec ses couleurs, mais il en est l'interprète. Il en est l'acteur dynamique. Et ça, même d'un point de vue de la philosophie, c'est tout à fait important, puisque l'homme est mis au centre de la perception du monde, de sa réception et donc de son interprétation. Là, c'est vraiment... on parle en termes de sensations colorées, de perception dynamique, et progressivement, en fait, ces recherches sont interprétées aussi par les peintres, qui vont mettre plutôt en exergue justement ces sensations colorées. Le dessin, la représentation mimétique se délite, les contours se délitent au profit justement de la touche, d'une parcellisation comme ça de la composition picturale. C'est ce qu'on voit chez les impressionnistes, par exemple.
Donc, en fait, ce qu'on voit dans un tableau impressionniste, c'est pas le sujet, c'est justement la perception que l'œil a de la lumière, ou la perception que l'œil a d'un paysage diffracté par justement ces petits points de couleur, c'est ça?
Oui, en effet, il y a en fait ce qui est, les artistes se tournent, même les impressionnistes, vers les conditions d'apparition propres à la lumière. On comprend que les couleurs sont des effets de la lumière, des sensations, que la lumière, on peut voir la couleur à partir de sensations colorées. Donc les artistes vont exalter la vision naturelle de ces phénomènes. Et donc là, c'est vraiment la vibration. Mmh. La vibration colorée et ce dynamisme. On perd le contour très net du dessin au profit justement d'une réalité énergétique qui est sans cesse changeante.
Comme il n'y a pas de contour non plus dans l'étoile de Rothko.
Oui, il y a une quête. Cette quête peut se définir ainsi. C'est une communion, la quête d'une communion entre l'œil et la lumière. Et chez Rothko, c'est tout à fait remarquable.
Mmh. Anne-Camille Charlia, finalement, lequel de ces deux peintres vous impressionne le plus? Parce que c'est des peintures qui, précisément, impressionnent. Vous, en tant que regardeuse, lequel vous impressionne le plus?
C'est difficile de comparer ce que je fais aussi dans ma thèse, plutôt de les mettre en regard. Donc, je ne pourrais pas vous répondre de manière très nette à cette question. Je crois que c'est deux peintures qui nous permettent de faire une expérience, d'avoir une expérience esthétique très très profonde. Ça, ce sont des rencontres, et il y a cette phrase de Heidegger qui m'accompagne depuis maintenant des années, et que ces deux peintures, je crois, en sont des témoignages assez éloquents. Heidegger disait que faire l'expérience avec quoi que ce soit, une chose, une œuvre, un homme, un dieu, demande que cela nous arrive, nous atteigne, nous tombe dessus, nous retourne et nous change. Je crois que c'est exactement ce que la peinture de Pierre Soulages et de Marc Rothko, à travers des démarches différentes, des outils différents, des instruments différents, nous propose. Oui, et il faut y être, je crois, attentif et ouvert.
Merci beaucoup Anne-Camille Charlia. Je rappelle que votre livre d'entretien avec Pierre Soulages, L'intériorité dans la peinture, est disponible aux éditions Hermann. Et on termine, comme chaque jour, avec la chronique.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique qui nous est proposée aujourd'hui par Alexis Broca du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour à vous Alexis.
Bonjour Mathieu, et bonjour Anne-Camille.
D'être là. Alors de quoi est-il question ce mois-ci dans le Nouveau Magazine Littéraire?
Comme d'habitude, il est question de beaucoup de sujets passionnants. Nous nous intéressons aux usages contemporains du théâtre de Shakespeare. Nous avons aussi un grand dossier crucial sur la Shoah à l'heure de la disparition des derniers témoins. Mais pour une fois, je ne vais pas vous parler de ces dossiers, je vais vous parler plutôt d'une enquête dont je me suis chargé sur les mythologies des épidémies. Voilà, une des façons de lutter contre cette épidémie, c'est aussi de la penser, de la réfléchir. Et en fait, je me suis intéressé à cette rumeur qui est partie au tout début de l'épidémie, selon laquelle le virus serait passé des animaux aux hommes par l'intermédiaire d'une spécialité, de quelque chose qui serait une spécialité de la gastronomie chinoise, la soupe de chauve-souris. Okay. Or, c'est assez intéressant cette histoire, parce qu'en fait, les Chinois ne mangent pas de soupe de chauve-souris. Ils mangent bien des animaux sauvages, mais pas ceux-ci. Et cette rumeur a été lancée, en fait, par des images qui ont été diffusées sur le net, les images d'une blogueuse chinoise en goguette, qui était aux îles Palaos, en Micronésie, et qui a goûté, effectivement, cette soupe de chauve-souris, qui est une spécialité locale de là-bas. Et en pensant à cette espèce de fiction collective qui a émergé comme ça, ben ça nous a ramené à une autre fiction collective qui était apparue avec au début du sida. Vous vous souvenez, on imaginait qu'il y aurait eu une relation sexuelle, zoophile, entre un singe et un homme quelque part au Cameroun, qui aurait fait passer le virus de l'animal à l'homme. Bon, on sait que c'est complètement faux et que c'est dû à que ce virus est passé de l'animal à l'homme par des blessures de chasse. Mais ce qui nous intéressait en fait, c'est ce réflexe mental qui veut qu'à l'origine de l'épidémie, nous placions une transgression et une transgression bestiale.
À l'heure des fake news, évidemment, c'est complètement décuplé, oui. Ce phénomène, mais c'est quand même un schéma qui est très ancien.
Voilà, alors c'est un schéma très ancien et il suffit de réfléchir 3 secondes pour se retrouver tout de suite l'idée d'Oedipe Roi, la pièce de Sophocle. Vous vous souvenez, Mathieu, au début, eh ben, Thèbes est en proie à une épidémie de peste terrible. Elle a été infligée par les dieux. Oedipe va chercher à élucider les raisons de cette peste. Et en fait, eh bien, ces raisons, vous le savez bien, elles sont contenues en lui-même. C'est lui, Oedipe, qui a commis cette double transgression bestiale, là encore, parricide et inceste, et qui justifie, encore une fois, le péché de l'un justifie le châtiment appliqué sur tous. Et ça se retrouve même dans l'Ancien Testament, si on se penche sur le récit des plaies infligées sur l'Égypte de Pharaon. Aujourd'hui, les scientifiques ont un tas d'explications très précises pour expliquer ces plaies, et notamment, il y a une épidémie de leishmaniose. Et finalement, on peut se demander si ce récit des plaies n'est pas une fiction inventée a posteriori pour justifier, encore une fois, par la transgression d'un seul, un châtiment infligé sur la multitude. Et on voit que ce lien entre transgression et épidémie, il court à travers toute l'histoire et à travers toute la littérature. On le voit jaillir notamment à travers la légende médiévale de la lubricité des lépreux. Mm-hmm. Vous savez que cette lubricité des lépreux était quelque chose de proverbial au Moyen-Âge.
Bien connu.
On le retrouve d'ailleurs dans Tristan et Iseut. Et puis on pourrait estimer que cette chose-là aurait disparu avec la modernité. Eh bien, pas du tout. Cette idée se retrouve dans toutes les fictions apocalyptiques qui mettent en jeu une épidémie. On la retrouve notamment sous la plume de Stephen King dans le roman Le Fléau, à chaque fois une transgression individuelle, celle de médecins dévoyés, de chercheurs dévoyés, qui mène au châtiment, un châtiment infligé sur tous, comme si, eh bien, nous savons tous que ces schémas ne marchent pas, mais en même temps comme si des millénaires de pensées magiques les avaient inscrits dans notre cerveau, et comme si nous étions incapables de nous en libérer tout à fait.
Ben c'est passionnant, et c'est merci à retrouver Mathieu. Dans le nouveau magazine littéraire. Merci Alexis Broca, à très bientôt. C'était La Compagnie des œuvres, une émission d'Anne-Vanessa Prévost, de Laurence Millet, de Laurence Genepin, de Didier Pinault, Pierre Cattaneo et Jacques Hubert. Demain, dernier épisode de notre série sur le noir avec Marie Lavandier, qui est commissaire de l'exposition Soleil Noir, laquelle se tient en ce moment au Louvre-Lens. Et dans un instant, on retrouve les sciences sur France Culture.